Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Aujourd'hui, nous avons le privilège de revenir à notre étude de l'Évangile de Matthieu. Si vous voulez bien, prenez votre Bible et préparez-vous à regarder avec moi Matthieu chapitre 8. À la fin de notre temps sabbatique cet été, nous avons quitté notre étude de Matthieu pour partager certaines choses de 2 Pierre, chapitre 1, et je pense que c'était ce que le Seigneur voulait. Mais maintenant, avec une grande joie et dans l'expectative, nous revenons à notre étude suivie de l'Évangile de Matthieu. Nous avons couvert les 7 premiers chapitres, et maintenant nous continuons dans ce grand Évangile si palpitant. Le 8e chapitre et jusqu'au 12e chapitre, c'est vraiment à plusieurs titres crucial pour comprendre la vie de Christ et le message de Matthieu. Car dans cette section, Matthieu rapporte une série de miracles exécutés par Jésus-Christ. Des milliers de miracles ont eu lieu, dont 9 qu'il choisit comme référence de la puissance de Jésus-Christ. Ils sont en fait les références qu'il est le Messie. Ce sont ces signes qui montrent sa divinité de manière convaincante, car seul Dieu peut faire les choses qu'il fait. Ce qui est triste, c'est qu'après les miracles des chapitres 8 et 9, après la prédication qui suit, les Juifs concluent au chapitre 12 que Jésus est du diable, et c'est ce qu'ils en ont conclu. Donc, de plusieurs façons, cela devient le cœur du message de Matthieu. Christ fait tout son possible pour manifester sa divinité, et ils en concluent exactement le contraire. Puis au chapitre 13, ils se détournent des Juifs vers l'établissement d'une église non-juive. C'est une section monumentale de l'Écriture. Or, vous remarquerez que cela commence par 3 miracles. Celui de la guérison du lépreux, dans les 4 premiers versets, la guérison de l'homme paralysé, versets 5 à 13, et la femme atteinte de fièvre, au verset 14 et 15. C'est le trio d'ouverture des miracles. Dans ces 2 chapitres, il y a 9 miracles. Ils viennent en 3 sections de 3. 3 miracles, puis une réponse. 3 miracles, une réponse. 3 miracles, une réponse. Tous ont pour but de manifester la divinité de Jésus-Christ. Les miracles, voyez-vous, étaient la manière par laquelle Dieu attestait la divinité de son Fils. Ce sont des miracles créatifs. Ils manifestent une puissance qui n'est définie que par l'essence de Dieu. Ce sont des choses que l'homme ne pourrait jamais faire. Ils sont surnaturels. Mais cette approche de donner des garanties au Messie par des miracles n'est pas l'approche de Matthieu seulement. C'est aussi l'approche de Jean. Regardez un instant avec moi l'évangile de Jean. J'aimerais simplement l'utiliser comme illustration pour que vous voyez la portée de cette affaire. Jean 1, verset 14. Dans Jean 1, verset 14, nous lisons ceci. Et la parole. Et bien entendu, ceci se réfère à la divinité même, à Dieu lui-même. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, dit Jean. Puis ceci. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean dit que la divinité est devenue homme, et que nous avons contemplé sa divinité. C'est ce qu'il dit. Nous avons vu sa gloire. Nous avons vu le divin se manifester dans l'humain. Nous avons vu l'essence même de la divinité. Nous avons vu Dieu. Comment, Jean? Comment avez-vous vu cela? Où cela s'est-il manifesté? C'est évident pour Jean. Jean continue à partir de cette déclaration pour donner dans son évangile une série de miracles accomplis par Jésus, qui sont la manifestation qu'il était pleinement la divinité elle-même. Et tout au long de l'Évangile, le Saint-Esprit nous appelle à arriver à cette conclusion. Allons à Jean, chapitre 5, au verset 19. Je vais vous donner un survol rapide de cet Évangile. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, c'est-à-dire aux Juifs, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Autrement dit, Jésus dit, « Ce que vous me voyez faire est exactement ce que Dieu peut faire. » Or, ceci est franchement une affirmation gigantesque. verset 20. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Autrement dit, Jésus dit « Regardez ce que je fais, c'est ce que seul Dieu peut faire. Cela devrait vous étonner. » Verset 36 du même chapitre. « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Il y a un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. » Et ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Comment a-t-il manifesté la divinité? Non seulement par ce qu'il a dit, mais même davantage par ce qu'il a fait. Par sa puissance miraculeuse, surnaturelle et créative. Seul Dieu peut créer, et les miracles de Jésus étaient des miracles créatifs. Dans Jean, chapitre 10, au verset 25, nous retrouvons la même chose. Jésus leur répondit, et de nouveau c'est aux Juifs, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Vous n'avez pas cru ce que j'ai dit. Vous n'avez pas cru mes paroles. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, ou par la puissance de mon Père, témoignent de moi. Vous niez mes paroles, mais comment pouvez-vous nier mes actes ?» Verset 32. Jésus leur répondit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous ? » C'est sarcastique. Il est évident qu'elles ont été surnaturelles. Pour laquelle me lapidez-vous? Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si je ne peux pas faire ce que Dieu peut faire, ne me croyez pas. Si je ne peux pas vous montrer que je suis Dieu, alors ne le croyez pas. Mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez pas, c'est-à-dire mes paroles, croyez à ces œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Le chapitre 14, verset 10, dit essentiellement la même chose. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Autrement dit, dans Jean 14, verset 10, il dit « Tu ne crois pas que moi et le Père nous sommes un ? Tu as un problème avec ça. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, littéralement mes paroles, que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » Au chapitre 15, vous avez de nouveau la même chose au verset 24. « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, c'est-à-dire le péché de rejet. Maintenant ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père, ils ont vu. Ils ne pouvaient nier que cela venait de Dieu, et ils ont manifesté que non seulement ils m'ont haï, mais aussi haï Dieu. » Vous voyez, c'est le sujet de l'évangile de Jean. Vous voyez les miracles, concluez qu'il est de Dieu. Ceci est même déclaré comme le but principal de l'évangile de Jean. Chapitre 20, verset 30. Déclaration clé. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, ou choses merveilleuses, ou miracles, qui ne sont pas décrits dans ce livre. Jean dit, « Je ne vous ai donné qu'un échantillon, comme Matthieu. Ce ne sont que des échantillons, beaucoup d'autres ont été accomplis. Pourquoi ? Mais ceux qui ont été décrits, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. Ceux-ci ont été écrits. Pourquoi ces signes, ces miracles ? Afin qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous voyez ? Toute la thèse de Jean est de présenter les miracles de Jésus comme l'affirmation de sa divinité, pour que les hommes puissent savoir, croire et être rachetés. Maintenant, revenons à Matthieu 8. Et trouvons également quel est exactement l'objectif de Matthieu. Ce sont les lettres de créance du roi. C'est la preuve qu'il est divin. En fait, cela arrive à un moment très stratégique dans l'évangile de Matthieu, parce que Jésus vient de donner un sermon impitoyable au chapitre 5, 6 et 7. Il a littéralement tourné leur monde religieux sans dessus-dessous. En fait, il leur a dit que leur enseignement était faux et que leur manière de vivre était mauvaise. Leur attitude était fausse. Tout ce qu'il pensait, croyait et espérait était faux, et il n'a jamais pris la peine de citer aucun rabbin ou l'une quelconque de leurs sources bien connues. Il n'a fait que répéter comme un état de fait, d'une manière absolue et dogmatique, « Voici la vérité ». En fait, constamment il disait, « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. » Et il a continué de dire cela encore et encore. Et quand il est arrivé à la fin du verset 28, quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, chapitre 7 et au verset 28, les foules restèrent frappées par son enseignement. Pourquoi ? Verset 29. « Car il enseignait avec autorité, et non comme leurs spécialistes de la loi. » Je veux dire qu'il disait simplement ces choses dogmatiquement. Comment les scribes faisaient-ils ? Ils citaient d'autres rabbins. Ils étaient faillibles. Alors ils avaient besoin de tout un monde, d'autres sources, pour appuyer ce qu'ils disaient. Jésus parlait simplement. Incroyable autorité. Et il a complètement bouleversé leur système religieux. Il les a mis à nu. Il les a démasqués comme les frimeurs qu'ils étaient. Il est donc évident que cela soulève une question dramatique. Un juif du premier siècle aurait dit ceci. Qui est celui qui dit ces choses? Par quelle autorité parle-t-il? Pourquoi devrions-nous entendre ceci? Pourquoi devrions-nous écouter cela? Pourquoi devrions-nous croire cela? Qu'est-ce qui lui donne le droit de dire ces choses et d'affirmer qu'elles sont vraies? Et les chapitres 8 et 9 donnent la réponse à cette question. Je vais vous dire ce qui lui donne ce droit. Il est Dieu. C'est à cause de cela. Et c'est ce que Matthieu dit au chapitre 8 et au chapitre 9. Il démontre sans l'ombre d'un doute que Jésus est Dieu. Et comment savez-vous qu'il est Dieu? Parce que seul Dieu peut créer. Et que dans deux chapitres, dans neuf exemples, Jésus crée des situations, des circonstances qui n'existent pas, même des membres physiques. Et nous voyons Dieu à l'œuvre. Cela présente la réponse à la question. Par quelle autorité fait-il ces choses? Maintenant, regardons d'abord au commencement. Les trois premiers miracles. J'aimerais vous donner quelques pensées générales à leur propos. Il y en a trois. La guérison d'un lépreux, la guérison d'un paralytique, quelqu'un dont la paralysie pouvait avoir de multiples causes, puis celle d'une femme qui avait de la fièvre, ces trois-là. Et il y a quelques éléments clés à noter à propos de ces trois premiers miracles. La première chose, il commence par le niveau le plus basique des besoins humains, les besoins physiques. La vie est plus que le physique, oui, mais Jésus a aussi de la sympathie pour ce qui est physique. C'est merveilleux de voir que les miracles de Jésus n'étaient pas seulement des miracles qui touchaient à des aspects spirituels, ou qui touchaient le confort, ou les richesses, ou les circonstances, ou la providence, mais qu'ils touchaient l'homme au niveau le plus basique des besoins de l'homme, le niveau physique. Il va dans les profondeurs de la maladie humaine. Plus tard, dans le second groupe de miracles, il s'occupe davantage du spirituel. Et dans le troisième groupe de miracles, il touchera même à l'ennemi suprême de l'homme, la mort même, en ressuscitant les morts. Mais à ce stade, il s'occupe de ce niveau inférieur des besoins humains, ce qui ne montre pas seulement la puissance de Christ, mais la sympathie de Christ. La deuxième chose que je vois dans ce simple survol, c'est qu'il répond dans tous les trois cas à des appels. Ceci nous montre sa compassion. Dans le premier cas, le lépreux lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Dans le second cas, les amis du centurion disent « Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. » Et il dit « Je viendrai. » Dans le troisième cas, selon ce que Luc ajoute dans ce passage parallèle, les amis de la famille de Pierre disent à Jésus « Tu sais, sa belle-mère est malade, et ce serait merveilleux si tu pouvais venir là-bas et t'occuper d'elle. » Dans les trois cas, il répond à l'appel du cœur des gens. La troisième chose à noter dans ces trois miracles, c'est que dans chaque cas, il s'agit bien de sa propre volonté. Bien qu'il ait de la sympathie, et bien qu'en même temps il soit profondément compatissant, il est souverain, et ceci est important. Dans chaque cas, il agit comme il veut. « Je le veux, sois pur. Je viendrai, et je le guérirai. » Il étendit sa main et la toucha, et la fièvre la quitta. Et quatrièmement, et ceci est remarquable, dans chacun de ces miracles, il touche quelqu'un qui, dans la compréhension des pharisiens et des juifs, était tout en bas de l'échelle de l'existence humaine. D'abord un lépreux, la boue du monde, ensuite un non-juif, enfin une femme. Rien qu'avec cela, il y a ici une subtilité qui démolit la fierté juive, l'orgueil des pharisiens. Et voyez à qui Jésus apporte de l'importance, à l'humble, le doux et le marginalisé. Vous savez que la toute première personne à laquelle il a révélé sa messianité était une prostituée de Samarie, qui n'était même pas juive. Cela dit quelque chose de la société juive de son temps. Donc, dès le début, il montre clairement qu'il va établir son autorité par une puissance miraculeuse. Mais il va aussi montrer sa sympathie pour ceux qui souffrent au niveau le plus bas des besoins humains. Il va répondre avec compassion aux cris de leurs amis et de ceux qui ont ces besoins. Et pourtant, il agira souverainement, comme le Seigneur qu'il est. Et, ce qui est triste, ce qui nous brise le cœur, c'est qu'avec tout ça, on lui tourne le dos. Et il conclut, au chapitre 12, que ce qu'il fait, il le fait par le pouvoir de Belzébuth, le prince des démons. Ils le haïssent. En fait, ils devaient le tuer, parce qu'il bouleversait leur sécurité religieuse. Dans cette section, mes amis, sa puissance est redoutable. Elle est redoutable. Il purifie un lépreux. Il guérit un serviteur. Il ressuscite une femme. Il contrôle la mer. Il expulse des démons. Rend la vue à l'aveugle. Fait marcher des handicapés. Fait parler des muets. Guérit toute maladie qui lui est apportée. Une incroyable manifestation de puissance. Et si vous regardez de nouveau dans Matthieu et revenez tout au commencement, vous pouvez voir qu'il ne s'agit que d'une nouvelle catégorie d'affirmation de la messianité de Christ. Premier chapitre, la généalogie. Elle atteste les qualifications légales du Messie. Deuxième chapitre, sa naissance et tout l'accomplissement des prophéties attestant les qualifications prophétiques du Messie. Et puis vous arrivez à son baptême. Il attestait l'approbation divine de sa messianité. Ensuite, vous avez la tentation. Elle atteste ses qualifications spirituelles pour être le Messie. Et ensuite, vous arrivez au sermon, ses qualifications théologiques. Et maintenant, vous avez les miracles, la qualification la plus essentielle de toutes, la preuve qu'il est Dieu. À propos, le chapitre 8 commence là où s'est terminé le chapitre 4. Le sermon est posé entre deux. Mais quand nous avons conclu le chapitre 4, vous souvenez-vous de ce qu'il faisait? Verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Vous voyez, c'est exactement où nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas? Il est monté sur une montagne, a prêché un sermon, est redescendu et tout a recommencé. Des milliers, d'innombrables guérisons, et il a guéri tous ceux qui venaient à lui. Et nous avons présenté les trois premières. Pour aujourd'hui, nous n'examinerons que la première. Une histoire magnifique. Magnifique. Laissez-moi vous la lire. Versets 1 à 4. Elle est courte. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » C'est tout. Au premier abord, vous pensez « Eh bien, n'est-ce pas sympathique ?» Magnifique cette histoire. Laissez-moi voir si je peux vous faire entrer assez loin dans l'histoire pour voir ce qu'elle dit vraiment. Verset 1. Lorsqu'il fut descendu de la montagne. Quelle montagne? Eh bien la montagne d'où il venait d'enseigner le sermon près du village de Capernaum. Une grande foule le suivit. Pourquoi? Les gens voulaient savoir quelque chose. Ce n'était pas parce qu'ils l'aimaient. C'était d'abord parce qu'ils étaient curieux. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler quelqu'un avec une telle autorité. Et il n'avait jamais vu quiconque aller guérir les gens. Il attirait des foules immenses de gens. Ils l'ont suivi quand il est descendu de la montagne, et ils étaient prêts à voir ce qui allait se passer, ce qui arrive au verset 2. Alors un lépreux s'approcha. Le mot littéral en grec. Il s'approcha, un lépreux. Ce qui est un mot intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est que les lépreux ne s'approchent pas. Celui-là l'a fait. Connaissez-vous quelque chose de la lèpre? Ce qu'est un lépreux dans la Bible? Le mot vient du mot grec « lépros », dont le mot racine est « lépra », ce qui veut dire « écaille » ou « écaillé ». Dans l'Ancien Testament, vous avez un autre terme, qui vient de l'hébreu, qui veut aussi dire « écaille » ou « écaillé ». Donc, dans les deux cas, cela fait référence à une sorte de maladie de la peau qui se manifestait, en tout cas en partie, par une peau qui s'écaillait. Une maladie de peau visible, une maladie de peau écaillée. Cela pouvait aller bien plus profond que cela, comme l'indique Lévitique 13. Mais c'était le terme utilisé. Or, il y a beaucoup de discussions et de débats pour savoir si cette lèpre, comme elle est appelée, et la lèpre de l'Ancien Testament, était la même que celle que nous connaissons aujourd'hui, qui est appelée la maladie de Hansen, et qui est celle que nous connaissons. De nombreuses personnes discutent à propos des termes utilisés, si c'est la même sorte de lèpre ou non. Eh bien, on ne peut pas être certain, car sur une période de plusieurs siècles, les maladies peuvent prendre des formes nouvelles pour toutes sortes de raisons, parce que les gens constituent des immunités ou parce que quelque chose arrive dans la société humaine. Et si des microbes existent, si des bactéries existent, etc., les maladies peuvent prendre plusieurs formes. Certaines peuvent être complètement éradiquées. Et ainsi, on ne peut pas savoir avec certitude si c'est exactement la même. Mais le mieux est de supposer, d'après la description de Lévitique 13, que nous allons voir dans un instant que c'était extrêmement semblable. Et la seule comparaison que nous pouvons vraiment faire de cette maladie viendra de notre compréhension de la maladie de la lèpre. Tout au long de l'histoire de l'étude de ces choses, la plupart des gens ont tiré ce parallèle. Donc je continuerai de le faire alors que nous examinons cela aujourd'hui. Une maladie horrible a fait son chemin dans la vie des enfants d'Israël. Cette maladie, la lèpre, comme elle était appelée dans la Bible, a sans doute été contractée en Égypte. La plupart des écrivains classiques pensent que l'origine de la lèpre était en Égypte et, soit dit en passant, elle était causée, on le sait maintenant par la science médicale, par un bacille ou une bactérie appelée Mycobacterium lepreae. Et cette maladie a été trouvée sur au moins une momie, découverte en Égypte. Il était évident, sur son corps physique, à cause de la momification, que cette personne-là avait la lèpre. On voit donc qu'elle existait dans les temps très anciens. Donc cette maladie, alors que les enfants d'Israël séjournaient au pays d'Égypte, leur a été transmise. Et lorsqu'ils sont venus dans le pays promis, ils l'ont amenée avec eux. Or, c'était un problème, à cause de l'horreur de la maladie en soi. Et donc, Dieu, en introduisant dans la vie d'Israël beaucoup de lois pour les protéger de plaies et autres, leur a donné des lois pour gérer la lèpre, de manière à ne pas la contracter. Maintenant, la lèpre des temps modernes ne se transmet réellement qu'à moins de 10% de la population. Autrement dit, 90% et plus de la population actuelle ne peut pas avoir la lèpre, même si vous aviez tous les bacilles en vous, parce que c'est ainsi que nous sommes constitués de nos jours. Nous ne savons pas si à ce moment-là, la maladie était plus contagieuse. Une affirmation de Luc, chapitre 4 et verset 27, dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, dont seul Naaman fut purifié. Donc, il se peut qu'à ce moment-là, elle était fortement contagieuse, tandis qu'aujourd'hui, elle l'est moins. À propos, cela peut vous intéresser de noter qu'elle est en hausse aux États-Unis d'Amérique, et le pays en tête en nombre de cas est la Californie. Il y a 10 ans, il y avait 30 ou 40 nouveaux cas par an, et maintenant, il y en a plus de 300. On peut les traiter avec un médicament appelé DDS d'Apsone. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un médicament utilisé pour cela, qui ne peut contrôler que les effets superficiels de la lèpre. Il ne peut l'éliminer totalement parce que c'est une maladie qu'on ne peut pas tuer. Elle reste jusqu'à la mort, pour autant qu'on sache. Il peut y avoir quelques cas particuliers, mais normalement la maladie suit son cours. Donc cette maladie est venue en Israël, et Dieu, voulant les protéger, leur a donné une conduite à suivre, très claire, quant à la manière de la traiter. Je vais lire dans le 13e chapitre du Lévitique. Nous allons lire des passages assez étendus, que vous pouvez suivre, si vous avez la version utilisée, ici la seconde 21. Vous trouverez la manière dont Dieu les a conduites fascinante. L'Éternel parla à Moïse. Lévitique 13, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Lorsqu'un homme aura sur la peau une grosseur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses descendants qui seront prêtres. C'est-à-dire, quiconque a la lèpre, amène-le au prêtre. Le prêtre examinera la plaie qui est sur la peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraisse former un creux dans la peau, en d'autres termes, c'est plus qu'une simple maladie de peau superficielle, ce qui est indiqué par la blancheur du poil due à l'infection qui a atteint la racine et cela fait un creux. C'est une plaie de lèpre. Le prêtre, qui aura fait l'examen, déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau une tache blanche qui ne paraisse pas former un creux dans la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qu'elle appelait. Ceci pour l'isoler et le mettre à l'épreuve pour voir ce qui va se passer. Le prêtre l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, il l'enfermera une 2e fois pendant 7 jours. 2 semaines. Le prêtre l'examinera une 2e fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, il déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Cela aurait pu être le cas pour du psoriasis, un eczéma, ou ce que l'on appelle vitiligo, beaucoup d'autres affections, mais qui n'étaient pas graves. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au prêtre pour être déclaré pur, il se fera examiner une deuxième fois par le prêtre. Le prêtre l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, il le déclarera impur. C'est la lèpre. Cela empire. Or, il y avait des cas évidents, où il n'était pas vraiment nécessaire de faire un test de 2 semaines. Et il en parlait au verset 9. « Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au prêtre. Le prêtre l'examinera. S'il y a sur la peau une grosseur blanche, si cette grosseur fait blanchir le poil et qu'elle porte une trace de chair vive, c'est une lèpre durable dans la peau de cet homme. Le prêtre le déclarera impur. Inutile alors de l'isoler pour 1 semaine, car ce qu'il a est déjà clair. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le prêtre pourra porter ses regards, il l'examinera. Quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est devenu entièrement blanc, il est pur. Autrement dit, si tout ce qu'il a est une plaie blanche sur tout le corps, et que cela ne commence pas à suinter, à s'ouvrir en des plaies à vif, ce n'est pas la lèpre grave. Hérodote et Hippocrate, dans l'ancien écrit, ont parlé d'une maladie appelée leucodermie, qui était quelque chose qui attaquait la pigmentation de la peau et rendait la personne pratiquement entièrement blanc tacheté. Ce pouvait être cela. Ou bien ce pouvait être de l'eczéma, ou du psoriasis, ou du vitiligo, ou n'importe laquelle de ces autres maladies bénignes, moins graves que d'autres affections de la peau. En d'autres termes, s'ils avaient ces affections sur tout le corps, de gravité moindre, le rendant blanc ou de couleur pâle, tacheté, ce n'était pas la vraie maladie de lèpre, et on pouvait le déclarer pur. En fait, si on regarde à de la lèpre de nos jours, ce pourrait être le même cas, parce qu'il y en a de 2 sortes. Il existe la lépromateuse, qui est sévère et très grave, et il y a la lèpre tuberculoïde, qui est une forme bénigne qui ne fait que tacheter la peau et qui disparaît entre 1 et 3 ans. Voilà donc les tests qu'il fallait faire, et les gens devaient être examinés très consciencieusement. Ainsi, s'ils avaient la forme sévère, le reste du chapitre 13 traite de cela. Que faire de cette personne? Eh bien, verset 38, il est écrit « Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau des taches blanches, le prêtre l'examinera. S'il y a sur la peau des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui font éruption sur la peau. La personne est pure. Il s'agit donc d'une moindre maladie que la forme sévère. La personne est pure. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est un chauve, il est pur. Certains d'entre vous poussent un grand soupir. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui fait éruption dans cette partie chauve. Le prêtre l'examinera. Et si la plaie forme une grosseur, etc., il continue. C'est un lépreux, ce qui voudra dire un autre examen. Maintenant, le verset 45 est la clé. Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés, et il aura la tête nue. Il se couvrira la barbe, c'est-à-dire la bouche, et il criera « Impur, impur !» La lèpre se transmet, et je viens de lire dans un journal récent un article sur l'analyse médicale de la maladie de Hansen. La lèpre se transmet par l'inhalation de l'air. Elle passe ainsi de bouche à bouche. On a découvert aussi que des gens ont contracté la lèpre quand ils ont touché le même objet, que le bacille peut être présent sur un objet commun. Par exemple, il y a eu des cas où les gens sont allés se faire tatouer, et après avoir été tatoués avec la même aiguille, ils ont développé cette même sorte de lèpre. Donc, on devait lui ôter ses vêtements pour s'en débarrasser également, et il passait le reste de sa vie allant partout, en cachant son visage et en criant « Impur, impur !» Il devait ainsi s'annoncer partout où il allait. Personne n'allait s'en approcher. Le Talmud dit qu'il ne fallait pas s'approcher à moins de 2 mètres d'un lépreux. Et si le vent soufflait, la limite s'étendait à 50 mètres. Et dans le judaïsme, il y avait 61 cas d'impureté. Le numéro 1 sur la liste était un corps mort. Et en 2 figure le lépreux. On ne s'en approchait pas. On ne le touchait pas. R. K. Harrison, dans un article très important sur le terme de l'Ancien Testament pour la lèpre, relève que tous les symptômes mentionnés en Lévitique 13 pouvaient présager une lèpre clinique. Cela pouvait bien être le cas, et il fallait faire la distinction d'où tous ces tests. Dans les cas évidents de lèpre, la personne est expulsée. Or, les amis, la lèpre grave est une maladie terrible, vraiment terrible. Tout d'abord de nos jours, on peut plus ou moins la contrôler, de manière que les gens peuvent vivre à peu près normalement. Mais en ces temps-là, on ne la contrôlait pas du tout. La première chose qu'elle fait, à part les symptômes physiques, visibles des taches et choses semblables, elle attaque le système nerveux et anesthésie immédiatement les membres. Des gens disent « Eh bien, leur nez tombe et leurs doigts tombent. » Pas vraiment. Une part du problème est que lorsque l'on perd toute sensibilité, on se frotte les extrémités jusqu'au point qu'elles tombent. On a trouvé à la léproserie de Carville, en Louisiane, aux États-Unis, qu'en étudiant des cas de personnes atteintes de lèpre, c'est ce qui arrivait. Par exemple, un homme atteint de lèpre avait des chaussures mal ajustées, et parce qu'il ne sentait pas du tout qu'elles ne lui allaient pas bien, il a perdu ses orteils à cause de frottements. Et une femme qui travaillait de ses mains a découvert qu'elle frottait ses doigts au point de les perdre, parce qu'elle n'avait aucune sensibilité et ne se rendait pas compte de ce qui arrivait à ses mains. Il arrive qu'ils se frottent le visage d'eux-mêmes, et ajoutez à cela que la lèpre attaque aussi la moelle osseuse. Alors elle infecte tout le système sanguin. Les os commencent à se racornir, et ce faisant, ils tirent sur la peau et les tissus de manière qu'il semble que les doigts sont comme des serres et que les pieds font de même. Puis, cela se met à suinter, comme les maladies de peau infectieuses, et tout cela se combine quand les malades utilisent leurs doigts infectés et atrophiés, et ils finissent par les perdre. C'est une chose terrible. C'est ainsi qu'ils perdent leurs membres. La maladie attaque les yeux, provoquant la cécité, les dents qui se mettent à tomber. Elle attaque les organes internes, ce qui donne la stérilité. Honnêtement, ce n'est pas très douloureux, mais c'est la chose la plus horrible qu'on puisse imaginer au monde. Elle commence par une tache blanche ou rose sur le front, sur l'oreille, sur le nez, le menton ou la joue. Puis elle s'étend et devient spongieuse, tumorale, bulbeuse, avec des grosseurs sur toute la face. Puis elle devient systémique, en se mettant à entrer dans le foie et la moelle osseuse, dans le système sanguin. Vous perdez votre sens du toucher et vous perdez la vue. Le docteur Huizinga a écrit à son propos « La maladie appelée lèpre aujourd'hui commence généralement par des douleurs dans certains points du corps. Une insensibilité lui succède. Bientôt, à ces endroits, la peau perd sa teinte originale, devient épaisse, brillante et s'écaille. La maladie progressant, les plaques épaissies deviennent des plaies infectées et des ulcères, n'étant plus suffisamment vascularisées. La peau, particulièrement autour des yeux et des oreilles, se boursoufle, avec des sillons profonds entre les enflures, de telle façon que le visage de l'individu affecté commence à ressembler à la face d'un lion. Les doigts tombent et font des moignons absorbés dans le corps, et il arrive la même chose aux orteils. Les sourcils et les cils disparaissent. À ce stade, on peut voir dans quelles conditions pitoyables se trouve le lépreux. On peut s'en apercevoir au toucher. Comme aussi on peut même le sentir, le lépreux dégage une odeur très désagréable. De plus, du fait que la maladie produit des agents qui attaquent le larynx, la voix du lépreux est râpeuse. Sa voix devient rauque, et vous pouvez non seulement voir, percevoir et sentir le lépreux, vous pouvez même l'entendre. Si vous restez avec lui quelque temps, vous sentirez un goût particulier dans votre bouche. Tous les sens humains sont repoussés par un lépreux. Cette maladie était redoutée, répugnante, et qu'elle ait pu atteindre toute la population ou seulement quelques personnes, c'était assez pour souhaiter que les malades soient hors du camp, pour protéger le peuple. Ils doivent partir hors du camp. Dans 2 Samuel 3, verset 29, il y a une déclaration étonnante. David prononçait une malédiction sur le méchant Joab, et David dit qu'il y ait toujours chez lui quelqu'un qui soit atteint de la lèpre. C'était la pire chose que vous pouviez dire de quelqu'un, et cette maladie n'avait aucun remède. Mais savez-vous ce qui était encore pire que cela? Incroyable! Comme s'il ne suffisait pas d'être laid, au-delà de toute imagination. À cela s'ajoutait qu'ils étaient classés comme rituellement impurs. Et Dieu avait un but. La lèpre, notez cela, était l'image la plus vive que Dieu avait pour le péché. Le péché salit tout le corps, le péché est laid, le péché est haïssable, le péché est incurable, le péché est contagieux, le péché sépare, marginalise, il fait des hommes des êtres rejetés. Non seulement chaque lépreux vivait avec les stigmates de sa propre maladie, mais il vivait en devant être une illustration ambulante du péché. Rituellement impur, misérable, un des rabbins du Talmud disait « Quand je vois des lépreux, Je leur jette des pierres, de peur qu'ils ne s'approchent de moi. » Un autre rabbin disait, « Je n'irai même pas jusqu'à manger un œuf qui aurait été acheté dans une rue où un lépreux aurait passé. Ils les haïssaient, ils les méprisaient, ils en avaient peur. N'est-ce pas choquant que Jésus, en présentant les preuves de sa messianité, commence avec un tel homme et ignore tous les pharisiens malades de la ville ? Regardons à lui. Revenons au verset 2 de Matthieu 8. Waouh, ces choses m'enthousiasment. On oublie presque qu'il s'agit d'un verset ici. Savez-vous pourquoi il y a le mot « alors » à cet endroit ? On dirait, et voilà que, ou en langue vernaculaire, vous n'allez jamais croire ça. Un lépreux s'approcha. Les lépreux ne s'approchent pas, c'est interdit. C'était impensable. Une honte personnelle, on ne devrait pas te voir. Marqué socialement. Loi de l'Ancien Testament, le rite. Tu ne dois tout simplement pas faire cela. Tu te déplaçais simplement en criant « impur, impur, impur ». Non, personne ne se serait approché. C'est incroyable. Quatre choses ressortent à propos de ce lépreux. Premièrement, il vient avec assurance. Je cite « Alors un lépreux s'approcha ». J'aime ça. Il n'a pas rampé. Il ne s'est pas glissé en chuchotant « Psst, psst, et par ici ». Il est juste arrivé. J'aime cela. Et le verbe dans le grec est bon, c'est « il s'approcha ». Il vient jusque-là. Je peux imaginer cette foule s'écartant immédiatement, aussitôt. Vous savez ce que je vois en cela? Je vois un homme qui sent si désespérément son besoin, au point que ce que les gens pourraient penser lui était complètement égal. Pas vrai? J'aime ça. Vous voyez, des gens comme lui étaient socialement si ravagés, qu'ils ne se montraient jamais en public. Celui-là l'a fait. Il avait perdu tout sens de honte. Il avait perdu tout sens de marque sociale marginalisante. Il s'est approché. Il n'a même pas réfléchi. Son besoin était si profond. Joseph nous dit que les lépreux étaient traités comme des corps morts. Cela n'allait pas l'arrêter. Il pouvait être mort aux yeux de tous, mais il est venu. Il est venu parce qu'il a vu qu'il avait un immense besoin, et il désirait être aidé, bien plus qu'il ne voulait sauver sa réputation. Prenez bonne note de cela, quelque part, voulez-vous? Deuxièmement, il est venu avec respect. Oh, j'aime ça. Un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur ». Ah, on ne peut pas dire grand-chose de son corps, mais on peut dire beaucoup de son âme, n'est-ce pas? Il y avait les pharisiens, sur leur 31, dans leurs meilleurs atours, en vêtements recherchés, et leurs petites toques qu'ils portaient, la barbe bien soignée, et à l'intérieur, misérable, pourri, des os humains morts. Et il y avait ce lépreux, extérieur vil, misérable et sale, et à l'intérieur magnifique, respectueux, adorateur. Vous savez ce que je crois? Je crois que lorsqu'il a dit « Seigneur », il n'utilisait pas le terme dans son sens de titre pour « monsieur ». Je crois qu'il savait qu'il était dans la présence de Dieu. Sinon, il ne se serait pas prosterné. Proskuneo, tomber à genoux. Le voilà qui vient vers Jésus, tombe à genoux devant Jésus et dit « Seigneur ». Je ne sais pas d'où il a eu cette information, mais il s'était passé pas mal de choses dans cette région, vous savez. Il y avait eu beaucoup de guérisons les unes après les autres. Peut-être que l'un de ses amis avait été guéri. Mais il vient, il adore, et les gens se prosternent devant les rois et devant Dieu. Je crois qu'il est venu parce qu'il avait un cœur d'adorateur. Je crois qu'il était dans la présence de Dieu, et qu'il le savait. Et c'était magnifique de voir que son âme s'était tournée vers Dieu. Et il est venu tout d'abord pour adorer. C'est parce qu'il comprenait que l'âme est plus importante que le corps. Il est venu en adorant. Il est venu exalter Dieu. Avant de rechercher quoi que ce soit pour lui-même, il a recherché quelque chose pour Dieu. C'est encore une chose importante à noter quelque part. Troisièmement, il est venu avec humilité. N'aimez-vous pas cela? Il dit « Seigneur, si tu veux, si tu le veux ». C'est de l'humilité. Il n'a rien exigé. Il n'a pas exprimé sa volonté comme si Christ devait s'y plier. Il n'est pas venu en listant les raisons pour lesquelles il devait être guéri. Il n'est pas venu en essayant d'affirmer sa propre dignité. Il n'a pas ronchonné à propos de sa maladie, se plaignant que plein d'autres gens n'avaient pas cette maladie. Il n'a pas parlé de ses droits. Il n'a même pas parlé de ses désirs. Il n'a même pas dit « Je voudrais être guéri ». Il n'a même pas dit cela. Il a seulement dit « Si tu le veux, tu peux ». Je ne dis pas moi-même que tu devrais, parce que tu es le Seigneur. Est-ce que ça vous plaît? C'est bien loin de tout ce que l'on entend aujourd'hui, où on dit à des gens de réclamer la guérison à Dieu, de réclamer le rétablissement, de réclamer d'être guéri. Cet homme n'avait rien à réclamer. Il a d'abord adoré. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit. Il a juste dit « Je sais que tu peux si tu veux. Je pense que je suis d'accord avec Lenski, que le lépreux est prêt, si Jésus le veut ainsi, à rester dans son état de mort vivant. Je pense, probablement, qu'il serait quand même parti en croyant, s'il était lépreux, sinon il n'aurait pas adoré d'abord, et n'aurait manqué aucune de ses propres requêtes personnelles. Cela révèle un cœur pur. Finalement, il est venu avec la foi. « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Dunasai, dunamai, dynamis, puissance, dynamite. C'est ce mot dans le grec. Tu as la puissance, tu es capable, je le sais, j'en suis convaincu. Et à propos, Luc nous dit, et Luc donne toujours l'analyse clinique de tout, parce qu'il était docteur. Luc dit, il était plein de lèpre. Et il a dit, tu peux le faire. D'où tient-il cette information? Et peut-être qu'il était là dans Matthieu 4, et qu'il a tout vu ce qui s'est passé. Tu peux le faire. Mes amis, quand un homme dit « Si tu veux, tu peux », c'est la foi à son plus haut degré, parce qu'elle sait que Dieu est capable, et elle se soumet à la souveraineté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient. Ils disent qu'ils croient, qu'il est capable, mais ils veulent le coincer et le forcer à faire des choses. D'autres personnes doutent qu'il peut. La vraie foi dit « Je sais que tu peux, je ne sais pas si tu le voudras ». C'est le plus haut degré de foi, mais quoi qu'il arrive, c'est ton choix. Donc, il est venu avec confiance, parce que son besoin était grand. Avec respect, parce qu'il a vu Dieu. Avec humilité, parce qu'il a réalisé que Dieu était souverain. Et avec foi, il savait qu'il pouvait le faire. Qu'est-il arrivé? Verset 3. Jésus, attention, tendit la main, le toucha. Le texte ne dit que cela, mais on pourrait ajouter. Et toute la foule en eut le souffle coupé. On ne touche pas les lépreux, les amis. Lévitique 5, verset 3 dit qu'il ne faut jamais toucher l'impureté de quelqu'un. Mais vous savez de quoi un lépreux avait besoin plus que tout au monde? Il lui fallait seulement être touché par quelqu'un de pur. Il l'a touché. Il n'aurait pas eu besoin de le faire. Il aurait pu monter sur un toit en disant « Sois pur !» et les anges auraient chanté, et la terre aurait tremblé au son du tonnerre. Non, rien de dramatique ici. J'aime ça. J'aime la simplicité. Seulement une grande simplicité. Une des grandes preuves de l'inspiration de la Bible est l'absence de commentaires des écrivains de la Bible. Je veux dire, si j'avais dit cela, vu cela, j'en aurais rempli 18 pages. Et puis le doigt a commencé à. Et vous savez, rien de cela. Cela manque. Une des grandes preuves de l'inspiration est cette absence de commentaires. Parce que les hommes en auraient fait toute une affaire. Non, il l'a seulement touché. Il dit, « Je le veux. Je le veux, c'est ma volonté, sois pur. » Et immédiatement, la lèpre fut nettoyée. Immédiatement, tous les miracles de Jésus furent immédiats. Cela me dérange lorsque les gens disent « Eh bien, je suis allé chez un guérisseur, et j'ai été guéri, et depuis lors je vais progressivement mieux. » Vous savez, lorsque nous touchons des choses impures, nous devenons impurs. Quand lui touche l'impur, l'impureté disparaît. Quand nous touchons une maladie, nous sommes contaminés. Quand lui touche une maladie, elle est guérie. C'est ça la puissance. Je pense que sans connaître la scène, je peux l'imaginer. Ses griffes racornies devenant instantanément de magnifiques mains avec une peau comme celle d'un bébé. Les pieds, le visage, incroyable. Jésus l'a touché. Il a été nettoyé immédiatement. Sa puissance, frappante, le front rongé, les yeux aux sourcils et cils absents, la peau sanguinolente, écaillée, égrattée, le nez, la gorge et les yeux détruits, les doigts et les orteils comme des griffes ou usés. Et instantanément, il est guéri. Vous savez, je me dis simplement, toutes les soi-disant guérisons modernes s'évanouissent complètement si on les compare avec cette sorte de démonstration de toute-puissance. Vous pouvez, écoutez cela, aligner tous les prétendus guérisseurs du monde, et ils peuvent choisir tous les lépreux qu'ils veulent, et ils ne feront pas cela. Que les prétendus guérisseurs se taisent. Leurs prétentions sont une folie face à la puissance du Christ. C'est tellement fou de lire que dans le monde entier, chaque civilisation a ses soi-disant guérisseurs. Ce n'est pas comme ici. Il ne crée pas des doigts, il ne crée pas des pieds. Lui, il l'a fait immédiatement. Verset 4. Faites attention. Puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne. Ne dis rien de tout cela à qui que ce soit. Oh, cela me fend le cœur, que c'est douloureux, à personne. Mais va te montrer au prêtre, au temple. » L'original utilise le mot pour le temple. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Quel est le premier test quand Christ vient envahir ta vie? Un petit mot. Il commence par la lettre O, obéissance. Il dit, « Très bien, tu as été guéri, va faire ceci, deux choses. 1. Fais ce que Moïse a ordonné. Pratique la loi de Dieu. Et Moïse, dans l'Ancien Testament, indiquait quelque chose d'étonnant. Quand un lépreux était guéri, il devait aller au temple, et c'était surprenant. Et juste pour vous donner un exemple de cela, je vais le passer rapidement en revue. Dans Lévitique 14, voici ce qui arrivait. L'homme croit que sa lèpre a été traitée, n'est-ce pas? Au cas où cela arrivait, et comme je le dis, il a pu y avoir des cas isolés où quelqu'un était guéri. Tout d'abord, il fallait prendre deux oiseaux, et il fallait en égorger un sur de l'eau vive. De plus, on prenait du cèdre, du cramoisi et de l'hysope. On les prenait avec l'oiseau vivant. On les trempait dans le sang de l'oiseau mort. Puis, on laissait s'envoler librement l'oiseau vivant. C'est une image de la résurrection. Ensuite, on se lavait. Ainsi que les habits, on se rasait. On attendait 7 jours. Puis, on était réexaminé. Ensuite, il fallait se raser les poils, la tête et les sourcils. On faisait ensuite des offrandes, comprenant 2 agneaux sans défaut et une brebis. 6,5 litres de fleurs de farine mélangées à de l'huile, ainsi que 3 décilitres d'huile. Il fallait ensuite toucher, avec l'huile mélangée au sang, le lobe de l'oreille droite, le pouce droit, le gros orteil droit. Suivez l'examen final. Et si la guérison était réelle, l'ancien malade recevait un certificat à afficher. Un ancien lépreux vit ici. Ce que Jésus voulait, c'était accomplir Lévitique 14. Va, et occupe-toi de tout cela. Vous dites, « Bien, je peux le comprendre. » Il voulait que l'homme obéisse. Vous voyez, Jésus n'était pas venu pour abolir la loi. Mais pourquoi ? Accomplir la loi. Et bien qu'il soit venu pour faire tomber le système des pharisiens, il ne voulait pas les amener à penser une seconde qu'il violait la parole de Dieu. Maintenant, vous direz, pourquoi lui a-t-il dit de ne rien dire à personne ? Réfléchissez-y. Certains disent, eh bien, c'était parce qu'il ne voulait pas susciter toute une foule pour le suivre seulement comme faiseur de miracles. Et c'est tout à fait possible, parce que cela devenait difficile pour lui de fonctionner, n'est-ce pas vrai? Peu après cela, parce que les foules étaient telles qu'il a dû partir de là. D'autres disent, en fait, c'est parce que Jésus ne voulait pas que le peuple le considère comme une puissance qui pouvait renverser Rome, et regarder à lui comme un chef politique, comme il le faisait. Souvenez-vous dans Jean, quand ils ont tenté de le faire roi pour renverser Rome. Et d'autres disent, puisque c'était le temps de son humiliation, il ne cherchait pas à être exalté. Dans tout cela, il y a du vrai. Mais laissez-moi vous dire la meilleure raison. Si vous lisez la suite, veille à n'en parler à personne. Mais lisez le reste et vous saurez pourquoi. Mais va te montrer au prêtre. Pourquoi? C'est là toute l'affaire. Tu vas au temple et tu fais tout ce que Moïse a ordonné. Tu te fais examiner pendant 8 jours. Offre-toi avec tes amis comme un lépreux qui a été purifié. Que l'on fasse tout le processus pour te tester. Et quand ils auront fini, ils concluront. Ce lépreux est pur. Et tu pourrais dire, voulez-vous savoir qui a fait cela? Jésus de Nazareth l'a fait. Et ils seront tous piégés dans leur propre conclusion. Vous voyez, c'est assez fort. Les prêtres confirmeront qu'il est pur. Et ils découvriront que c'est par Jésus. Et par leur propre témoignage et leur propre examen, ils confirmeront la puissance de Christ. Et tout dépend du fait qu'ils doivent se hâter vers Jérusalem et ne disent rien. Sinon la nouvelle que c'était Jésus qui l'avait fait serait arrivée en premier et ils n'auraient plus d'intérêt à l'examiner. Mais vous savez ce qui est arrivé. L'homme n'a pas fait cela. Il s'est mis à parler partout. Marc nous le dit. Il était si excité qu'il n'a pas obéi. Et dans ce sens, l'histoire a ceci de triste qu'il n'a pas fait ce qui lui avait été demandé. Mais pour aujourd'hui, je ne veux pas finir là-dessus. J'aimerais que vous pensiez à ceci. Jésus dit, qu'est-ce qui est le plus difficile? Guérir une maladie ou pardonner le péché? Il a dit cela plusieurs fois dans des termes différents. Savez-vous pourquoi? Parce que, tant qu'il faisait ces sortes de miracles, il ne faisait pas que révéler sa puissance sur la maladie. Mais chacun était une illustration de sa puissance sur quoi? Sur le péché? Sur le péché? Et en cela, je vois une analogie. Pour moi, ce texte est analogue à une conversation. Suivez cette ligne de pensée en conclusion. La lèpre, l'impureté cérémonielle, est une démonstration du péché. C'est comme le péché. Le péché est partout. Le péché est laid. Le péché est détestable. Le péché est contagieux. Le péché est incurable. Le péché fait de vous un proscrit. Mais le lépreux est venu avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il était assez désespéré de sa lèpre, exact. Il en est ainsi de la conversion. Les gens ne sont pas sauvés sans être désespérés de ce qu'il y a de haïssable dans la maladie du péché. Et mes amis, cela manque terriblement dans l'évangélisation de notre époque. L'homme est venu. Il a perdu tous ses stigmates sociaux. Il a perdu toute crainte d'être marginalisé. Cela lui est devenu complètement égal. Il était bouleversé par la nature détestable de sa maladie. Venir à Christ, ce n'est pas suivre le mouvement, c'est être coupable et le savoir. Deuxièmement, il est venu en adorant. Je crois qu'une authentique conversion se passe quand des gens désespérés viennent en adorant Dieu, ne cherchant rien pour eux-mêmes, mais cherchant la gloire de Dieu, en reconnaissant sa majesté, avec une forme de crainte, celle de sa seigneurie. « Seigneur, dit-il, tout ce que tu voudras. Je pense qu'être vraiment sauvé exige cette sorte d'impuissance misérable, ainsi que cette qualité d'affirmation dans le respect, qu'on l'adore comme Seigneur. » Troisièmement, il est venu humblement. Je pense qu'une conversion authentique ne se fait pas dans l'optique que l'on fait une faveur à Dieu. Il n'y a aucune volonté propre, ni égocentrisme, ni sens de valeur, de dignité, d'utilité, aucun droit, aucune prétention, rien de tout cela. Ce sont les humbles qui héritent le royaume. Et pour finir, il est venu dans la foi. Il a cru que Jésus pouvait le faire. Et vous pouvez être sauvé sans la foi. Il faut avoir un sens bouleversant de culpabilité par le péché. Il faut avoir une adoration de Christ comme Seigneur. Il faut avoir l'humilité et la foi. Et alors vous serez touché et purifié si vous venez dans ces conditions. Et puis-je ajouter que la maladie du péché est infiniment pire que la maladie de la lèpre. Ensuite, quand vous êtes sauvé, vous savez ce que le Seigneur dit ? Fais deux choses, veux-tu. 1. Veux-tu obéir à la loi de Dieu ? Veux-tu obéir à la loi de Dieu ? Et 2. Que les gens découvrent pour eux-mêmes que Christ a changé ta vie. Et donc, cela ne doit pas être que verbal. Cette analogie n'est-elle pas intéressante ? Mieux vaut pour toi ne rien dire et laisser les gens voir que Jésus a changé ta vie, par leur propre examen, plutôt que de parler à tort et à travers et de ne pas pouvoir l'appuyer par ta manière de te conduire. Voilà un homme qui courait partout en disant « Jésus a changé ma vie, regardez-moi, j'étais lépreux, Hosanna !» Et quelqu'un lui a dit « Eh, pourquoi ne vas-tu pas te montrer au prêtre ? Je vais y aller un jour. » Une vie de désobéissance au milieu d'un témoignage oral ne veut rien dire. Le témoignage perd toute sa valeur. Sois obéissant, et dans ton obéissance, Dieu montrera par elle la puissance de transformation de Christ. C'est ta vie qui parle. Donc, nous voyons dans cette belle histoire, par analogie, la guérison de l'âme du péché. Eh bien, un jour, quand j'irai au ciel, je vais dire à cet homme, parce que je crois qu'il y est maintenant, je lui dirai, « Quoi ? Comment se fait-il que tu ne sois pas allé à Jérusalem ?» Prions. Merci, Père, pour notre temps ici aujourd'hui. Et quelle fantastique et excitante expérience c'est pour nous de voir encore ta puissance nous parler. Après les 2000 ans qui ont passé depuis que cet homme a vécu, puissance tout aussi vive qu'alors. Touche nos vies aujourd'hui, particulièrement ceux parmi nous qui ont la lèpre du péché. Purifie-les, qu'ils puissent être purifiés avant la fin de cette journée. Pendant que vous êtes inclinés et que vos yeux sont fermés quelques instants, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il ait pitié. Si la lèpre vous est apparue effrayante, vous n'en avez même pas la moitié. Être dans le péché est sous le jugement de Dieu pour l'éternité. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous viendrez à Jésus-Christ. Si l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs et que vous le sentez en vous, que vous sentez sa voix vous attirer, allez-vous lui obéir? Je le crois. Il vous touchera et vous purifiera. Il pardonnera même votre désobéissance, bien qu'elle le chagrine. Merci, Père, pour ce temps, pour la merveille de ta puissance telle que nous l'avons vue exprimée en Christ. Et oh, nous sommes si reconnaissants qu'il nous ait touchés et purifiés, que nous soyons fidèles pour obéir, et que le monde, en nous examinant, puisse savoir que Jésus-Christ a transformé notre vie. À lui soit toute la louange. Attire au lieu de prière ceux que tu veux y voir venir. Nous pouvons aider dans cette décision cruciale. Nous prions au nom de Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.